Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Un comité de suivi avant fin juin. Manuel Valls écrit aux partenaires calédoniens pour poursuivre le dialogue politique. L'actualité politique dans ce journal, ce sera aussi la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Nouméa Tiga en vol direct. Air Oceania a ouvert la voie ce matin avec son nouvel appareil qui permet d'embarquer 9 passagers. Bruno Retailleau, nouveau président des LR. Il a largement dominé son adversaire Laurent Wauquiez avec près de 2/3 des votes des adhérents. Et puis la messe inaugurale de Léon XIV à Rome. Le nouveau pape a dénoncé une économie exploitant la nature et marginalisant les plus pauvres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine des sports du lundi. Bonjour Léo Fichou.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons football puisque le championnat de Ligue 1 est terminé, mais pas celui de rugby. C'était la 24e journée la nuit dernière pour nous et ce week-end.
Oui, il y a pas mal de changements en haut comme en bas du classement. Grâce à sa victoire sur Montpellier, La Rochelle grimpe à la 5e place, qualificative on le sait pour les phases finales. En tête, on retrouve toujours Toulouse devant l'UBB et Toulon. En bas du classement, le Loup dégringole à la 11e place et le Stade français sort de la zone rouge aux dépens de l'USAP. Vannes reste bon dernier.
En Formule 1, Max Verstappen renoue avec la victoire.
Oui, il a devancé les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'était en Italie sur le circuit d'Imola. Fortune diverse pour les Français. Isaac Hadjar 9e, Pierre Gasly 13e. Enfin, Esteban Ocon a dû abandonner.
Et puis dans la page sport locale, nous parlerons cyclisme avec nos invités.
Oui, cyclisme et BMX, puisque le comité régional organisé ce week-end, on le sait, une journée porte ouverte, journée de découverte du BMX Race. C'était sur la toute nouvelle piste de Tina. Pour en parler, nous recevrons Stéphane Coulon, président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, et Alexandre Rougerie, responsable du développement de BMX.
Le Mac des sports du lundi a retrouvé donc dès la fin de cette édition. Manuel Valls propose un comité de suivi avant la fin du mois de juin pour poursuivre le dialogue politique. Une semaine après l'échec de Deva, le ministre des Outre-mer écrit aux délégations politiques qui ont participé aux discussions sur l'avenir institutionnel et il persiste et signe dans la défense de son projet de souveraineté avec la France, Elisabeth Noir.
Dans ce courrier adressé aux délégations des groupes politiques, Manuel Valls commence par un état des lieux. La situation économique et sociale reste très préoccupante et elle doit être suivie et accompagnée de près. Les finances publiques du territoire sont particulièrement dégradées. La situation sécuritaire est maîtrisée, mais fragile. Le dialogue politique doit se poursuivre, ajoute le ministre des Outre-mer, qui rappelle son projet présenté le 5 mai, celui d'une souveraineté avec la France, qui permet, écrit-il, de conjuguer les aspirations divergentes à la pleine émancipation et aux liens structurants avec la France. Et selon lui, ce projet, qui est évidemment amendable, dit-il, constitue une base pour les discussions et les négociations à venir. Le ministre des Outre-mer réaffirme également que les négociations ont fait émerger de nombreux points de convergence et qu'elles ont permis d'identifier 6 engagements structurants qui devront être mis en œuvre. Il propose alors aux délégations de poursuivre ces travaux dans le cadre d'un comité de suivi associant tous les partenaires, dont une réunion sera proposée avant la fin du mois de juin. Manuel Valls conclut ce courrier en évoquant les élections provinciales qui doivent désormais être programmées dans un calendrier à fixer. Il indique qu'il faut au minimum 6 à 8 semaines pour les organiser si elles devaient se tenir à corps électoral constant. Le ministre ajoute qu'elles devront en tout état de cause avoir lieu avant le 30 novembre 2025 comme le prévoit la loi organique, sauf, écrit-il, à ce qu'un accord institutionnel soit intervenu d'ici là pour permettre de les repousser à nouveau.
Et dans ce long courrier, Manuel Valls se répète également en évoquant la dégradation des finances publiques du territoire, que le soutien de l'État se poursuit en 2025, mais qu'il doit désormais être clairement conditionné à des réformes. L'éveil océanien est partisan d'un avenant à l'accord de Nouméa. C'est le projet sur lequel se positionne le parti qui réunissait son congrès samedi à Païta. Milakulo Tukumuli qui a été réélu à la présidence. C'était notre invité ce matin à 7h30 et il est notamment revenu sur le conclave de Deva. Il affirme qu'à cette occasion, 3 projets ont été examinés. Celui de la souveraineté avec la France de Manuel Valls, celui de l'État fédéré des loyalistes et du rassemblement et enfin celui d'un avenant à l'accord de Nouméa. Mais pour lui, le projet d'État fédéré a été enterré tout comme le projet de souveraineté avec la France et il ose un néologisme en affirmant que Manuel Valls a été pisanier.
Je crois qu'à la sortie du conclave, Valls a été pisanier par les non-indépendantistes et le rassemblement. Et j'utilise ce terme à dessein parce que Valls propose aujourd'hui une solution qui a déjà été proposée aux Calédoniens en 1985 par Edgar Pisani. Donc en quelque sorte, les non-indépendantistes ont enterré le projet de souveraineté avec la France. Qui soutient la souveraineté avec la France ? Ben nous, on soutient. Le FLNKS aussi, même si ce n'est pas sa position traditionnelle, ils ont fait un pas de la souveraineté pleine et entière vers une souveraineté avec la France. Et bien sûr, l'UNI Palika qui est sur ce projet. Calédonie Ensemble aussi qui est favorable.
Les deux projets étant enterrés, l'éveil océanien choisit une troisième voie, celle de l'avenant à l'accord de Nouméa.
Le projet que nous, on a défendu, c'est la souveraineté avec la France. Mais pas tout de suite, pour prendre en considération le résultat des Calédoniens, donc à mettre en œuvre dans quelques années, on a proposé 2050. Maintenant que cette souveraineté avec la France est enterrée par les non-indépendantistes, et que l'État fédéré est enterré par le reste, que nous reste-t-il ? Il nous reste toujours une dernière voie, qui est l'avenant à l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'on prolonge l'accord de Nouméa. Pourquoi ? Écoutez, la question du oui et du non, c'est une problématique qui réside dans notre pays depuis plus de 40 ans maintenant. Je veux dire, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur s'étaient posé aussi cette question. Il n'y avait pas de référendum organisé. Ils ont préféré dire on organise un référendum. Puis en 98, au lieu d'organiser ce référendum, nos anciens, qui sont encore là pour certains, ont dit mais écoutez, on ne va pas faire ça maintenant. On va laisser la question trancher plus tard. Je crois qu'il faut savoir être humble. Nous, on ne pourra pas faire mieux que nos anciens. Et donc, je crois que le plus petit commun dénominateur qui a été trouvé en 98, c'est encore le plus petit commun dénominateur aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut prolonger l'accord de Nouméa.
Et cet avenant passerait par un ajustement du corps électoral et par une évolution des institutions issues de l'accord de Nouméa. Mais il restera la question du droit à l'autodétermination.
Et c'est là où on doit être malin. Et je crois que c'est ce qu'on a gagné avec Manuel Valls au conclave de Deva. Parce que les référendums de l'accord Nouméa nous ont opposés fermement parce que la question est une question de rupture. Les gens se sont éloignés sur la question de la France ou l'indépendance. Mais quand on sort de Deva, en vérité, il y a deux projets qui sortent, c'est l'État associé et l'État fédéré. Pour moi, politiquement, ces deux projets sont très proches l'un de l'autre. Et je souhaite, nous souhaitons, qu'à l'issue de cette période nouvelle de stabilité, que la consultation ne se fasse pas sur oui ou non, mais se fasse sur un oui, oui. Oui à l'État fédéré, oui à l'État associé. Et dans ce cas-là, on sortirait de la logique binaire et on irait vers un référendum de projet où chacun pourra construire l'État fédéré, et d'autres pourront construire la souveraineté avec la France, autrement dit l'État associé.
Une interview de Mila Kouloutou-Koumouli que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet. La suite de l'actualité politique, comme tous les lundis dans ce journal, c'est avec la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
On ne peut pas vraiment dire que les choses s'éclaircissent depuis l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel et le départ de Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer était parti fâché, mais sans fixer aucun rendez-vous précis, si ce n'est l'organisation d'élections provinciales sans évolution du corps électoral. Le maintien d'un corps gelé, c'était un peu sa vengeance à l'égard du camp des partisans de la France qui avait rejeté son projet d'indépendance d'association. Mais depuis, tout le monde s'en est mêlé et on n'y comprend plus rien. L'UNI d'abord est satisfaite du projet posé sur la table par Manuel Valls. Et pour cause, c'est presque le sien et c'est incontestablement un projet d'indépendance. Et selon Jean-Pierre Diaoué, il existe un consensus autour de ce projet de la part de Calédonie Ensemble, de l'Éveil Océanien, du FLNKS et de l'UNI. L'UNI qui estime donc que les négociations doivent se poursuivre sur ce projet avec ceux qui le veulent bien. Et que, faute d'accord, l'État devra organiser un référendum pour choisir entre le projet de fédéralisme des loyalistes et du rassemblement et le projet de souveraineté avec la France de l'État. L'Éveil Océanien a lui aussi voulu donner sa vision des faits à l'occasion de son congrès et son président réélu affirme qu'il y avait trois projets sur la table, celui de Manuel Valls, celui des partisans de la France et celui d'un avenant à l'accord de Nouméa. C'est ce dernier projet que privilégie l'Éveil Océanien pour offrir une période de stabilité et de reconstruction à la Nouvelle-Calédonie. Cet avenant, dont la durée reste à déterminer, pourrait se terminer par l'organisation d'un référendum de projet, là encore, où les Calédoniens auraient à choisir entre un État associé et un État fédéré. Décidément, en Calédonie, l'imagination est au pouvoir et l'on n'est jamais à court de constructions institutionnelles plus ou moins baroques. Et ces deux partis, par ailleurs, ne veulent pas d'élections provinciales avant la fin de l'année, parce que selon eux, cela précipiterait la Calédonie dans un processus de campagne électorale qui n'est pas un gage de construction. Mais il faudra qu'il l'explique au ministre des Outre-mer. Il vient d'annoncer que les provinciales doivent avoir lieu avant le 30 novembre, comme le prévoit la loi organique, sauf à ce qu'un accord institutionnel soit intervenu d'ici là pour permettre de les repousser à nouveau. Mais Manuel Valls, lui, poursuit son chemin et il ne lâche rien. Après avoir été malmené sur presque tous les bancs à l'Assemblée nationale et au Sénat, il persiste et signe en invitant les délégations politiques à un comité de suivi avant la fin du mois de juin, il s'agira de poursuivre les discussions autour de son projet de souveraineté avec la France. Parce qu'il n'en démord pas. Son projet, c'est le meilleur. Il permet, écrit-il, de conjuguer les aspirations divergentes à la pleine émancipation et aux liens structurants avec la France. Et il ajoute que c'est un statut inédit qui conjuguerait souveraineté et unité dans le respect de l'accord de Nouméa. Bref, on a l'impression qu'il a trouvé la pierre philosophale. Et pourtant, des loyalistes au rassemblement de Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau, d'Estelle Youssouf à Olivier Fessard et Rachid Temal chez les parlementaires, ils sont nombreux à lui avoir expliqué que son projet, qui veut imposer l'indépendance à une Calédonie qui n'en veut pas, n'est pas le bon. « Ce que vous dites est gravissime », lui a même déclaré la députée de Mayotte. Et même l'ancien ministre des Outre-mer, Hervé Mariton, s'en est mêlé pour asséner que parler de souveraineté partagée est un oxymore, parce qu'on est souverain ou on ne l'est pas. Mais Manuel Valls ne veut rien entendre, et c'est le problème avec lui. Quand on lui dit non, il ne comprend pas, même quand c'est trois fois non.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter. Ce sera cet après-midi, juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est maintenant l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec la question du jour. Manuel Valls a-t-il raison, selon vous, de réunir un comité de suivi avant la fin du mois de juin pour poursuivre le dialogue politique sur la base de son projet de souveraineté avec la France? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h42, la première pause de ce journal, on se retrouve dans un instant pour parler de l'élection de Bruno Retailleau à la tête du parti Les Républicains.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Rouf au 25 0700 et retrouvez la mini-carte spéciale fête des mères sur la page Facebook Le Rouf.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Bruno Retailleau est donc le nouveau président des Républicains. L'actuel ministre de l'Intérieur a été élu par les adhérents du parti et il a largement battu son adversaire Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau s'impose avec 74,3% des suffrages, c'est-à-dire les deux tiers des votants. Au siège des LR dans le 7e arrondissement de Paris, le reportage d'Alexandre Chauveau pour Europe 1.
À son arrivée au siège des Républicains, Bruno Retailleau est acclamé par les militants. Sa victoire récompense une ligne clairement de droite, son choix d'être entré au gouvernement et son action place Beauvau. Victoire qu'il espère désormais faire fructifier au-delà des Républicains.
Je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés et ils sont revenus. Donc ce que l'on peut faire avec des militants, je suis sûr que demain, on pourra le faire avec des électeurs que la droite trop souvent malheureusement a déçus, à la condition qu'il y ait une ligne politique claire, qu'on arrête de s'excuser et qu'on travaille d'arrache-pied pour proposer aux Françaises, aux Français, une perspective et surtout une rupture.
Une rupture qui passe forcément par un départ du gouvernement dans les prochains mois. C'est ce que tout le monde anticipe à droite pour permettre à Bruno Retailleau et aux Républicains de préparer au mieux 2027.
Les 1168 adhérents calédoniens des Républicains ont participé au scrutin, mais on ne connaît pas encore le taux de participation ni le résultat sur le territoire. Le rassemblement a toutefois demandé un décompte différencié et il attend ses chiffres dans les prochains jours. En attendant de connaître les chiffres précisément, la réaction de la vice-présidente du rassemblement, Virginie Rufnacht, à l'annonce de l'élection de Bruno Retailleau.
C'est un très beau moment de démocratie puisqu'on voit qu'il y a une très large participation et donc c'est un choix sans ambiguïté d'un candidat qui incarne une droite assumée, une droite de valeur, dans un moment où finalement la société est quand même assez fragile. Avec un délitement justement de valeurs essentielles, je crois que c'est bien d'avoir des hommes de la personnalité de Bruno Retailleau qui savent donner un cap et finalement redire les choses fondamentales pour notre société. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre famille politique et c'est un vrai élan qui est donné aujourd'hui à travers cette très importante participation des adhérents Les Républicains.
Le rassemblement avait choisi d'organiser une campagne interne avec des référents pour chacun des deux candidats. Au terme de l'élection, Virginie Rufnacht Chirac espère que cette campagne ne laissera pas de traces au sein des Républicains.
Je l'espère. En tout cas, la campagne n'a pas été brutale. Il y a eu plutôt un grand respect de la part des deux candidats d'ailleurs. Et c'est une bonne chose. J'espère qu'effectivement, notre famille pourra être rassemblée autour de valeurs, d'un projet à proposer aux Français. Et puis, vous savez, pour la Nouvelle-Calédonie, on attend aussi du président des Républicains une affirmation très forte de garantir le choix exprimé par trois fois par les Calédoniens d'une Nouvelle-Calédonie qui souhaite définitivement rester au sein de la République française. C'est aussi ce cap pour la Nouvelle-Calédonie que nous attendons dans les semaines et les mois à venir. C'est important pour nous et j'espère que notre famille jouera tout son rôle dans l'échiquier national pour affirmer précisément aussi ce choix pour la Nouvelle-Calédonie.
Et on peut rappeler que des permanences étaient assurées à Nouméa et au Mont-d'Or pour aider les adhérents calédoniens qui n'étaient pas à l'aise avec le vote électronique. 270 personnes se sont déplacées pour solliciter cette aide, mais la plupart des adhérents ont voté directement. De son côté, le candidat battu, Laurent Wauquiez, entend poursuivre son action politique, notamment à l'Assemblée nationale, où il reste le patron des députés LR, même si la défaite a un goût amer. Le reportage de Maïhélène Trémollet d'Europe 1 au Puy-en-Velay.
Malgré le soleil radieux, l'ambiance est morose sur la grande terrasse où les militants LR sont venus entourer Laurent Wauquiez. Les yeux rouges et le visage fermé, la plupart d'entre eux partagent le même ressenti.
Beaucoup de déception. Il a fait une campagne incroyable et je suis très déçue pour lui, c'est injuste.
Je pense que M. Retailleau aurait dû rester à sa place. On ne peut pas faire de fonction, c'est pas possible. Laurent, c'est le meilleur.
Mais pour d'autres, cette défaite n'empêchera pas Laurent Wauquiez d'endosser des responsabilités à l'avenir, comme celle de représenter la droite pour la campagne présidentielle.
Dans tous les cas, il fallait qu'il y ait un perdant. Il a encore beaucoup à faire, beaucoup à prouver.
Rien n'est fait, rien n'est joué. Aucune carte sont abattues et aucune carte sont abattues. LR n'a pas perdu.
Affaibli mais déterminé, le député de Haute-Loire écarte toute idée de fracture et appelle à une droite unie mais distincte du socle commun, une allusion directe à la participation de Bruno Retailleau au gouvernement.
J'ai toujours dit qu'il fallait additionner plutôt que de diviser, parce que diviser, nous sommes sûrs de perdre. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un procès de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme.
Dans son entourage, on souligne que Laurent Wauquiez reste une figure majeure du parti, avec un rôle institutionnel de premier plan, comme chef de file des LR à l'Assemblée nationale. Manière de rappeler que malgré la défaite, le rival de Bruno Retailleau continuera à peser à droite et qu'il compte le faire savoir.
Un Bruno Retailleau qui continue d'afficher son soutien au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a en effet annoncé la construction d'une prison de haute sécurité en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Prévue pour ouvrir en 2028, c'est une prison de 500 places. Une soixantaine de cellules ultra sécurisées sera réservée aux narcotrafiquants et une aile de l'établissement aux détenus radicalisés. Excellente idée, a commenté Bruno Retailleau sur TF1.
Excellente idée. J'applaudis à cette idée. Vous savez que ce texte narcotrafique, je l'ai préparé depuis longtemps au Sénat, il y a plus de 2 ans. Nous avions lancé la commission d'enquête. On a travaillé au coude à coude avec Gérald Darmanin pour faire en sorte que ce fléau, qui est un fléau qui est la cause racine de l'hyperviolence en France, vous savez que désormais ces criminels, ces narcotrafiquants, utilisent, entre guillemets, des gamins. Ils les recrutent comme tueurs à gages. Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. On le voit bien, ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes, ceux qui tuent sont de plus en plus jeunes. Je vais vous dire, il faut être implacable, parce que c'est désormais une menace existentielle sur la nation, comme le terrorisme.
Bruno Retailleau sur le plateau du 20h de TF1 après son élection à la présidence des LR. Le pape Léon XIV a célébré la nuit dernière pour nous à Rome la messe inaugurale de son pontificat. Il a dénoncé dans son homélie une économie exploitant la nature et marginalisant les plus pauvres. À l'issue de cette messe, il a notamment rencontré plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a remercié pour les paroles que le nouveau pape avait prononcées un peu plus tôt.
L'Ukraine martyrisée attend que des négociations pour une paix juste et durable aient enfin lieu.
En attendant, pas d'avancée notable dans les discussions sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais les choses pourraient bouger dans les heures qui viennent. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se parler directement par téléphone la nuit prochaine pour nous. À 11h et bientôt 50 minutes, une nouvelle pause dans ce journal. On revient dans un instant à l'actualité en Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Brrr, il commence à faire frais. J'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas, jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Infomag, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Jean-François Baudin.
La deuxième semaine de la deuxième session d'assises de l'année à Nouméa s'est ouverte ce matin. Aujourd'hui et demain, les jurés se pencheront sur un viol sur conjoint. Viol aggravé qui fait passer la peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Le prévenu, placé d'abord sous contrôle judiciaire, a été ensuite incarcéré avant son procès parce qu'il n'avait pas respecté les dispositions de son contrôle. Air Océania prend son envol. Le nouvel appareil de la compagnie de la province des îles a décollé ce matin pour son vol inaugural, Michael Juneski.
Oui, première liaison commerciale avec l'appareil Tecnam P2012. 9 places passagers à son bord qui a quitté la piste de l'aérodrome de Magenta à 10h pour rallier Tiga. Michel Doué, le directeur général de la compagnie Air Oceania.
C'est un Tecnam P2012, c'est un avion de construction italienne. Celui-ci donc, a des performances assez exceptionnelles. C'est un stall, c'est-à-dire qu'il fait des décollages et des atterrissages sur des distances très courtes, à la masse maximale. On a fait le choix de ce modèle pour pouvoir avoir un appareil qui nous permette de faire la desserte de Koumak et surtout de Belep sur la piste de Belep qui est très courte, sans dérogation. Parce que la piste de Belep fait 600 mètres et les performances de cet avion lui permettent de décoller à la masse maximale, donc avec le plein carburant passager de 300 mètres. Nous allons donc nous concentrer sur la desserte de Tiga et sans doute celle de Koumak et Belep dès que nous aurons trouvé un partenariat pour le financement de la desserte sous forme de convention ou sous une autre forme. Et ensuite, nous espérons avoir un deuxième appareil qui va nous permettre de faire de l'intéril régulièrement. Et dans le début des opérations, nous allons bien sûr reprendre notre cœur de métier également, c'est-à-dire les rapatriements sanitaires, les transports de corps, principalement vers les îles.
Air Oceania qui aura avant tout pour mission d'assurer des liaisons avec les populations les plus isolées. C'est le cas à travers la première desserte pour Tiga, l'île qui est en cruel manque de transport depuis plusieurs mois. Isabelle Caloy-Béarouné, élue de la province des îles et membre du conseil d'administration de la SODIL.
C'est ce que nos populations, ils attendent. C'est vrai, on a eu quelques mois de retard, mais aujourd'hui, voilà, on y est. En premier temps, Tocanode. En second temps, les interîles, en attendant bien sûr l'avitaillement du carburant sur l'aérodrome de Wanam. Un objectif politique, le désenclavement de nos populations, ça c'est important parce que c'est la responsabilité. Aussi le bien-être de nos populations, parce que voilà, le besoin social, le besoin économique. Nos gens, ils ont besoin de se déplacer pour les mariages, mais pour des raisons de santé aussi. Il faut dire que Tiga, ben voilà, un médecin toutes les 2 semaines. Et c'est important aussi pour le suivi, pour des raisons médicales, mais aussi économiques, parce que voilà, c'est le transport, c'est un peu le poumon de l'économie de la province des îles.
L'ancienne flotte d'Air Loyauté doit être renouvelée pour permettre à Air Oceania de poursuivre les dessertes commerciales, avec également des vols interîles. On retrouve Michel Druet.
Une nouvelle dynamique, une nouvelle communication, un nouvel élan en fait. On renouvelle la flotte. On renouvelle l'enseigne commerciale, donc le personnel est très motivé. Donc maintenant, on va se lancer dans de nouvelles aventures avec l'ensemble du personnel. Je rappelle que le capital, l'actionnariat d'Air Oceania, donc c'est la SODIL à 100%, qui elle-même est la SEM de la province des îles, avec la mission de développer toute l'activité économique. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est de développer le transport, avec une mission première, c'est le désenclavement des îles.
Michel Druet, le directeur général de la compagnie Air Oceania, la compagnie qui communiquera ultérieurement sur ses tarifs, mais également l'organisation de ses plannings de vol et dès que possible sur la mise en place de liaisons interîles.
En bref, lisez et communique sur le recensement qui doit se terminer jeudi. Si vous n'avez pas encore été recensé, vous pouvez contacter le numéro vert, le 05 20 00. Le 05 20 00 de 8h à 20h pour vous faire connaître afin de prendre rendez-vous et effectuer votre recensement avant la fin de l'opération. Et puis une marche de 740 km en mémoire des 80 ans de la Deuxième Guerre mondiale et du retour du bataillon d'infanterie et de marine du Pacifique. La marche des volontaires, organisée par le RIMAPNC et les FANC, a débuté ce matin avec une étape longue de 30 km sur deux jours entre la baie de la Somme à Prony et Ploumes. En tout, 16 étapes sont prévues. À l'université, les étudiants profitent depuis ce matin des différentes animations proposées dans le cadre de la première édition de la Semaine des langues. Jusqu'à vendredi, les étudiants et le personnel enseignant peuvent choisir d'être simples spectateurs ou d'être acteurs. Pour l'occasion, en effet, une scène a été installée au centre du campus pour chanter, slammer, participer à des jeux, notamment des quiz ou un escape game. Cette première édition est placée sous le signe de la diversité linguistique et culturelle, explique Tiffaine Meran de Chamisso, directrice de la Maison des langues et des mobilités.
L'objectif, c'est de vraiment sensibiliser notre communauté, mais également plus largement, au trésor culturel, mais aussi presque... biologique que constituent les langues. Alors il y a à peu près une quarantaine d'événements d'une nature très diverse. Nous avons des concerts, nous avons des démonstrations de danse, nous avons une pièce de théâtre, nous avons un karaoké plurilingue, un speed papote, des jeux, des escape games, des quiz et des ateliers
de calligraphie.
Ça va être un moment exceptionnel et surtout, c'est ouvert à tous.
Et le but, c'est évidemment de permettre aux étudiants de découvrir les langues et les cultures.
C'est la semaine des langues. On va essayer de rester là le plus possible pour essayer d'assister à ce qui va se passer aujourd'hui.
On est venu regarder l'animation. C'est intéressant. C'est une découverte.
Ouais. C'est bien pour promouvoir la culture, puis découvrir les autres langues, les autres cultures. Voilà.
Ça anime un peu la journée, puis ça fait découvrir de nouvelles choses. Comme voilà, c'est la première fois aussi, on écoute les chants des langues du Nord, comme ça.
La dernière chanson, c'est une chanson
originale. La langue en foyer, là, c'était beau.
On a su par d'autres camarades qu'il y a eu la semaine des langues. On n'était pas informés, parce que nous, on est au DEG en bas. Et on est venu regarder et écouter les chants qu'ils proposaient. C'est bien d'apprendre à connaître les autres langues.
Voilà, la première édition de cette semaine des langues à l'UNC se poursuit jusqu'à vendredi.